Bonjour à toutes, à tous et à tous. Merci à Duradio de nous permettre ce premier essai, un essai pour réaliser le lancement d'un livre de poésie à la radio. Ce livre, c'est Désolation, Hopelessness en anglais, écrit par l'auteuriste britannique, les poètes, musiciennes Verity Spot. Nous l'avons traduit à quatre mains. Cette traduction a été publiée par la toute récente maison d'édition Même pas l'hiver, dont je m'occupe avec la critique d'art François Aubard, et est déjà sorti le 15 février dernier. Il est disponible en librairie, mais trouve ici une nouvelle forme.
Et pour commencer à parler de cette traduction, donc quand on a commencé la traduction de Hopelessness, Verity Spot était encore en train de travailler à l'écriture du texte en anglais pour sa publication chez The 87 Press. Et avec Camille, on a rencontré donc Verity Spot. C'était à l'occasion d'une lecture et d'un séminaire à l'École des Beaux-Arts à Lyon qu'on avait organisé avec nos étudiants et étudiantes respectifs et respectives. Et le premier texte qu'on avait lu de Verity Spot, c'était « We Will Bury You », qui est une série de sorts que Verity Spot envoie aux membres du Parlement britannique. Et ce texte, on l'avait découvert dans sa version publiée dans la revue FR David. C'était au printemps 2018. Et on était aussi à ce moment-là très intrigués par un autre texte de Verity, donc qui s'appelle « Click Away, Close Doors Say », donc qui est paru en 2017, et qui est un livre de poésie où le lyrisme sert à la fois à disloquer vraiment le texte, mais aussi à décrire des conditions de travail et à exprimer des questions sociales et politiques. Et ces questions sociales et politiques, en même temps, se retrouvent complètement prises au milieu de l'invention poétique. Et pour sa lecture aux Beaux-Arts à Lyon, Verity Spot avait lu un texte qui était encore en cours d'écriture, un texte beaucoup plus narratif que les précédents et qui est ensuite devenu Hopelessness, qu'on va présenter aujourd'hui.
Donc Hopelessness, dans Hopelessness, Verity Spot donne à voir plusieurs éléments. Un hôpital où un corps est connecté à un dispositif médical, un pré faussement idyllique sous lequel grouillent des câbles, ou encore on peut lire et du coup voir des rivages où des formes oscillent entre ensevelissement et immersion. Le texte de Verity Spot propose en fait une poésie fantasmagorique qui se situe entre narration, prose et dialogue. L'expression des sentiments y bouleverse l'attribution des pronoms personnels et les structures syntaxiques. Et ce sont donc des identités changeantes qui prennent à partie les politiques d'austérité et les voix d'extrême droite. Désolation travaille en fait une écriture qui est hybride, où s'entrelacent la poésie lyrique, des images tirées de blockbusters et le langage des démagogues. C'est un livre de deuil et d'amour, écrit à un moment de division idéologique très forte en Angleterre à ce moment-là, au moment du Brexit, où le deuil, c'est aussi la perte d'un monde qui ne viendra pas. Il frôle aussi la satire et propose une critique des utopies alors proposées par l'extrême droite.
Et pour ce lancement à la radio, on a choisi donc d'inviter des poétesses dont les regards nous ont semblé particulièrement pertinents pour découvrir le travail de Verity en général et puis cette œuvre en particulier. Donc on a invité Jacqueline Frost, donc qui est poétesse, qui est aussi théoricienne de la littérature décoloniale et militante, qui est également cofondatrice de la revue de poésie bilingue qui s'appelle Sena Oy. Et on a également invité Élise Legal, donc qui est artiste et poétesse et qui travaille entre dessin, photo, film et écriture. Et donc toutes deux liront un extrait de Désolation et nous allons aussi discuter ensuite avec chacune. Et tout d'abord, donc un premier extrait en français lu par Élise.
D'après Sappho. Je repose dans un corps mort, sous la lumière morte sur l'eau. Tu es la distance. Tandis que je repose là, dans mon corps, dans la chaude mer morte, tu es la distance. La lumière au sommet de l'eau, ce qui arrive et ce qui part. Je regarde les bâtiments derrière le champ. Tant de vie ici, elle se déplace dans la lumière et se cache dans le noir. Le champ dans le rêve, où je grimpais dans le sol, à travers des couches de câbles et de messages, en bas dans la terre, pour trouver ton corps encore vivant, demeurer là, en bas, dans la terre tout ce temps, et nous avons commencé à remonter à travers des couches de tuyaux et de messages pour rejoindre la lumière du champ. Tu es toujours morte, endormie dans la terre, et je me demande qui pense à ton nom, à Dieu, jusqu'au paradis, jusqu'à ce que nous soyons dans les câbles. Je touche la surface de l'eau. Nous nous sommes assises calmement et avons enduré la violence. Perdues nos vies intérieures. Mes yeux sont contre l'eau. Mon corps est sous toi, doucement étouffé. Son attrition. L'eau a recouvert mon corps et je repose morte dans l'eau. Quelle frénésie dans ma poitrine se déchaîne et par quel remède être apaisée, quelle douce jeunesse j'attirerai que dans mon cœur hanté je fixerai, qui cette vie fracturée réprime-t-elle? Dis-moi, ô, oh, dis-moi qui, tu peux vivre entre le sable et le sel et le souffle. Nous nous sommes réveillés dans l'eau morte. Nous avions peur, comme n'importe quel nouveau-né, ouvrant nos yeux sur une gigantesque lueur. Nous avons vécu dans l'eau morte, nos corps morts luisaient, nous étions effrayés. Chaque coup, chaque mot. Nous avons compris que notre panique était infime comparée à la panique des miroirs. Et soudain, nous étions invincibles. Parce que nous étions tout le monde. Nous tenions nos corps ensemble dans la mer. C'est une vie d'attrition que je vis pour refuser. Sous la protection de l'eau morte dans mon corps mort, je te tiens auprès de moi. Tu es toujours plus âgé que moi. Je crois que tu te déplaces encore à travers le monde et le temps, à travers ces lentes eaux mortes, si belles et calmes. La surface que je touche avec ma paume. J'ai cessé d'être en vie pour toi. Et ceci sera ta nourriture, le sel de la mer. Et ceci sera ton air, mon sang et ma peau. Et ceci sera ta lumière, le pouls de ma poitrine. Et ceci sera ton sommeil. Le sommeil de mon corps. Lève les yeux. Tant de beauté. Regarde dans le sol. Plisse les yeux avec moi à mi-distance. Si loin en arrière et je te tire hors du sol. L'évasion est érodée. Ton équilibre d'une nuit. Nous perdons la tête et déchirons la peau d'un poisson. Je repose à côté de toi pour toujours et disant ceci. Tu te rapproches encore, me tendant un sac de papier ouvert. J'ai très envie que ton cœur bouge. Il est immobile. Le sol est quelque part disparu. Le vent déchire, l'étoile de l'échafaudage. Mais je peux à peine parler. Je sors ton corps de l'eau et commence à marcher, te tenant dans mes bras, à peine discible. S'il te plaît, tombe du sol mort. Si... loin et dans la terre affamée. Je me suis étirée, étais soulevée, dans l'air asséché. Les oiseaux se taisent, tandis que tu demeures, dans les bois, un silence absolu d'oiseaux. La beauté des cieux, je te tiens là. Viens donc, je prie. Accorde-moi un répit au chagrin. Nous ne sommes pas des mercenaires, secouant des enfants injustes dans le sol, nous sommes détruites dès le commencement. Mortes dans le sol, mortes dans l'eau. L'eau est morte, morte dans les orbites, morte dans la poitrine. Nous sommes mortes dans l'eau et le sol. Le sel sera notre nourriture. Tue le sol et l'eau. Je veux que tu vives à nouveau. Telles sont mes dernières paroles. Pour toi, le sel et l'eau, la naissance et la mort. Éloigne-toi de la mort. Viens et regarde-moi encore. Laisse le son s'affranchir du chagrin. Rapidement, la lumière suivra. Je surveille les vies sont détruites. Te donne des membres et des dents, vie après vie, depuis le sol jusqu'à l'air, des membres et une poitrine et des yeux pour fixer et l'eau étouffée qui se décolle et la bouche du sol. D'à peine vu, tout juste remarqué, tu portais du gris et du rouge. Un peu de jaune et le soleil dans ton verre. Respirerai-je vers toi du jaune stroboscopique? Des particules grises de rouge, mes rêves me hanteraient-ils? Ta silhouette grimpante, pendouillant du sable et du sel taché au soleil, sur le jour papier blanc. Je regarde fixement dans le sac et il n'y a rien dedans. Les couleurs sont des débris que nous étalerions, l'amour, arrête mon cœur. Il a détruit l'esprit, est terminé, est tout ce qui reste. Au contraste, glissant l'amour, a dérobé mon cœur. J'adore m'endormir, mais je m'endors vers toi. On me dérobe mon sommeil et on me dérobe depuis le cœur.
Merci, on retrouvera Élise tout à l'heure. Jacqueline Frost, bonjour. Tu es donc poétesse et chercheuse, tu es américaine et vis à Paris. Tu viens de publier en français chez Eric Pesty une section du troisième événement, dont la troisième partie est parue en anglais chez Crater Press. Tu co-diriges avec Luc Benazé la revue Sena Oy, qui publie des textes en français et en anglais. Vous avez d'ailleurs généreusement accueilli des extraits de traduction de Verity Spot dans vos pages, dans un des numéros. Pour commencer cet entretien, on souhaitait avec Elsa te demander si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur ta rencontre avec Verity, autant avec la personne qu'à ses textes. Comment tu les as rencontrés, dans quelles conditions et si...
Je crois que c'était en 2014, lorsque j'étais invitée par le poète Sean Bonney à un festival de poésie qui était à Birkbeck College, qui était énorme. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de poètes. Et moi, j'étais déjà en Europe. Du coup, c'était l'occasion de faire partie de ça, parce qu'il n'y avait évidemment pas beaucoup d'argent pour inviter des gens de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'était pendant cet événement que j'ai rencontré toute la scène poétique de Londres. Nat Raha, qui est maintenant une de mes meilleures copines, qui est poète. Danny Hayward aussi. Luke Roberts. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de différentes personnes qui sont maintenant des figures de la poésie à Londres et aussi en Écosse. Et du coup, Verity vit à Brighton, où il y a une petite scène. C'est-à-dire, il y a une communauté de poètes qui ne sont pas dans le centre, qui ne sont pas à Londres, mais qui sont une heure et quelques sur la côte. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Joe Luna, qui faisait une série de lectures pendant quasiment 10 ans, dans un endroit qui s'appelait The Hope and the Ruin, qui était un bar. Cette série s'appelait High Zero. Mmh. Et Verity lisait beaucoup et publiait souvent ses propres textes dans ce contexte-là, dans la scène là-bas.
En t'écoutant, je me dis que pour une poétesse américaine arrivée sur la scène anglaise par la transition par la France, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier à cette scène
Oui, en fait, à l'époque, juste avant 2014, il y avait des échanges entre la scène poétique à Auckland, mm-hmm. en Californie, où j'étais, et la scène britannique sur la question du rapport entre la poésie et l'histoire révolutionnaire, l'histoire de la pensée militante.
Okay.
Et il y avait une espèce de colloque, mm-hmm. on peut dire comme ça, qui s'appelait Militant Poetics à Londres. Il y avait un deuxième à Auckland. Mm-hmm. Et il y avait des gens de chaque scène qui étaient invités pour parler de leurs expériences, de la politique, de la militance et de la poésie.
Okay.
Ils ont essayé de penser ce report-là à travers des différentes luttes en cours. Mmh. À cette époque, juste post-Occupy.
Ok. Et quel texte tu as rencontré d'abord de Verity? Tu te souviens, non?
Oui, j'ai lu Gideon,
okay.
qui à l'époque, c'est un chapbook en A5, mmh. genre de gros format. Et c'était un texte qui utilisait justement ce dispositif du sort, mmh. de Hex, qu'on retrouve dans d'autres textes de Verity, qui est d'ailleurs un dispositif poétique vraiment très intéressant, qu'on ne trouve pas forcément dans beaucoup de poésie, par exemple, américaine. Donc je m'intéresse aussi à... Il y a quelque chose un peu... Il y a quelque chose de mystique, mmh. dans l'utilisation de cette forme. Et quelque chose de très drôle et satirique aussi. Mmh. Et j'apprécie énormément le fait qu'il y a à la fois quelque chose de très sérieux, c'est-à-dire on parle des vraies situations politiques très dramatiques, notamment ce qui se passe en Angleterre sur plein de questions sociales, et notamment la misère et le travail, l'austérité, tout ce que les gens vivent quotidiennement. Et qu'on voit une poésie qui parle de ça d'une manière à la fois extrêmement... qui rend ça dramatique, qui dramatise la situation dans le sens littéraire, mais qui utilise plein de différents registres de l'humour aussi, mmh. de mettre en œuvre cette situation.
Bah pour rebondir, Jacqueline, sur ce que tu viens là de préciser, c'est vrai que Verity Spot, elle appartient vraiment à une scène poétique anglaise qui est engagée dans toutes ces questions politiques. Et c'est vraiment une poésie qui est conçue en partie comme une espèce de riposte, même si c'est une riposte complètement impuissante, mais à la fois aux voix d'extrême droite, mais aussi aux directives gouvernementales. Et moi, ce qui m'avait frappée, c'est vraiment le rapport entre le lyrisme, parce que c'est vraiment des formes lyriques qui reviennent, et des questions, comme tu disais, révolutionnaires et aussi quand même beaucoup marxistes. Et je me demandais, toi aussi, comment tu te positionnes par rapport à cette coexistence du lyrisme et du marxisme en poésie.
Ouais, c'est très intéressant parce que justement, comme tu dis, c'est quelque chose qui marque la scène britannique, qui n'existe pas vraiment de la même manière aux États-Unis, justement parce que le lyrisme, il y a quelque chose de rengard dans le lyrisme, comme en France, on dit qu'il y a quelque chose de rengard. Et justement, pour des raisons que je ne comprends pas très bien, en Angleterre, ce n'est pas le cas. Et c'est peut-être aussi parce que depuis la génération de Cambridge School et Prynne, il y avait un engagement, il y avait une utilisation du lyrisme dans un contexte de satire politique et que ça s'est jamais divisé, ça s'est jamais décomposé comme des différents engagements qui se trouvent ensemble. Du coup, pour moi, je m'intéresse beaucoup à ça, évidemment, personnellement, dans ma pratique poétique. Mais ce n'est pas que le lyrisme non plus, parce que dans le livre de Verity, il y a aussi d'autres formes de langage qui se trouvent avec le lyrisme. Donc, c'est avec des poètes comme Prynne ou d'autres, il y a un engagement lyrique à un très haut niveau d'intensité. Mais avec la génération de Verity ou Danny Hayward ou Nat Raha, c'est un peu plus mélangé. C'est pas que il y a aussi un langage, comment dire, il y a un langage de satire capitaliste, c'est-à-dire il y a un langage des objets, tu vois, dans la poésie de Kerstin Sutherland, il y a ça aussi. Il y a tout un livre qui est conçu sur une sorte de petit objet qui sert à rien dans un frigérateur ou un truc comme ça. Et souvent, dans la poésie de cette génération, on prend des objets banals du monde capitaliste et on construit un dispositif lyrique autour.
Il y a récemment Danny Hayward, que tu as cité à plusieurs reprises, qui a sorti un livre de recueil de textes critiques dans lequel il parle de Verity. Je crois qu'il y a deux textes. Il y en a un spécifique à Verity, plutôt sur Click Away, Claude Dorcet, et un autre qui regroupe plusieurs poètes. C'est aussi quelqu'un que vous avez publié dans Sena Hoy. C'est quelqu'un qui a l'air, dont tu es proche. Comment est-ce qu'on pourrait, parce que c'est des types de poésie assez différentes, enfin, il y a la part de la question critique dont tu parlais dans la poésie se retrouve aussi dans une écriture critique presque académique à certains endroits, en tout cas d'analyse de texte. Et chez Danny Hayward est très, très présente. Comment tu saisis ça ou qu'est-ce que ça a l'air assez spécifique aussi à cette scène-là.
Oui, c'est possible. Il y a beaucoup de poètes qui ont aussi des pratiques critiques universitaires, théorique. Mm-hmm. Et c'est vrai que Dany, il vient de sortir un livre, une collection de ses essais sur la poésie contemporaine britannique.
C'est Windin Buildings.
Mais c'est vrai, il n'est pas le seul personne qui... Par exemple, Joe Luna, dont j'ai parlé tout à l'heure, lui aussi, il a écrit des textes critiques qui parlent de l'état de la poésie. Mm. Ou quelqu'un comme David Grundy aussi, il a une pratique de recenser les livres qui sortent. Et c'est vrai, dans la scène américaine, il n'y a pas exactement le même enjeu avec la critique. Mm.
Chez Danny Howard, ce qui est intéressant, c'est que des fois, les textes qu'il critique sur les auteurs, on voit que c'est aussi des textes qui sont quelque part politiques, en fait, dans le sens où c'est aussi une manière de dire à certains moments, regardez comment ces auteurs travaillent sur ces questions-là, qui sont des questions importantes et qu'il faut aussi travailler politiquement. Enfin, il y a cet endroit-là qui est le dialogue.
Peut-être c'est aussi la suite de cette réflexion sur la question de la poésie et la tradition militante aussi, ce qui est quelque chose qui... Évidemment, on n'avait pas trouvé ce que c'est le rapport entre ces deux choses, ce qui est très mystérieux et qui évolue dans différentes directions tout le temps. Mais je crois que justement, c'est quelque chose qui préoccupe des poètes de cette scène, et moi aussi d'ailleurs. Et c'est pour ça peut-être aussi que ça continue à être quelque chose qui est travaillé. Mmh.
Mais peut-être juste pour préciser aussi par rapport à Verity Spot, c'est vrai que Verity a un blog sur lequel elle publie aussi beaucoup de textes, et notamment sur ses rapports entre poésie et politique. Verity avait publié un texte qui s'appelait « How to make your poem more Marxy ». Donc pour le rendre plus Marxy, mais sans véritable intention politique derrière. Donc c'est vrai que ça passe aussi beaucoup par l'humour et des formes de critique satirique. Et Jacqueline, merci beaucoup. Et maintenant, on va t'écouter lire un extrait, mais cette fois donc en anglais.
Who will wipe this blood off us, he said, that boils the ground. He ricocheted the night, swallow, again, even more. Chewing on the pelvic floor, the life that creaks away below, who shudders in the light. Softly, some obliteration slipped into the air. And what is without confidence? Passion, 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 softly taken, beaten in its world of intensive make, the shuttered climate open and getting steadily worse. We lay down to die in the strangled grass. You looked at me, I looked at you. The sea was turbid and still, echoes of lives moved through the buildings. I sat by a desk. You were helping me up, but I had to be helping myself. A cricket popped in her cage. I said, from my chair. I thought, I could communicate from here with my mouth. I could shout, or I could use a phone or a pen. I could sign. Silence hung in the wake of the world. Private words I wasn't allowed. I said, from my cellar, I could speak from an apple. And felt myself move a little up into the quiet field. An empty space, a car park, all tamped down in concrete. Where have you gone? Life has been so something since you left. A scorn to still say life. The walls shift a little and wobble into line. And 8 miles away, a clutch of people shouting. Every flattened week, the flotsam of the movements, a process is botched. I'm holding the cans and the tube has come loose from the tape at the incision. Spite is the sound. There is no place. And I have the past lying in a trowel. You saying my heart is not convinced. My eyes were snapped awake. A freezing bellow of wind, the long march through the car park to the cluster in yellow, echoing voices of a meadow in the car park, in a hall, in a county, in some counties, in a county, by a car park, in a strict and particular Baptist church, by a car park, inside a strict and particular Baptist church, dying to return, my own Galid, to the floating mouth of the shore who accelerates yet still remains austere. I could motion in a box in a field on a sofa,
in a chain, in a nozzle, in a bed, from a leaf to a stone, from a bolt to a gluey hand in cuts, or to a blue-green light. We're just above the car park in the sky that turns the Tarmacino grasses. Morning you in LEDs, lamps drop like wildflowers on the sea to kill the day, making your best choices sensible, maggoty, diluted and in four new locations. Grace Church, Vineyard, something, that something. I will never forget suspended in space or air. I am lit and gleaming in the flowers, my soft dead body in the long warm grass. Swish and smile up to blank him off. Papillon LEDs reforming into foam. The tide turns back, the heart is still. I come here to stare in the icy brine. I could communicate from here, here, and here. I use my finger in my head, eye and tube, clumsily pushing it back in the wound tearing at the bandages which gave their hours to bleed me, who only want to do it now, sluice back through hard retention, pain and little plastic gloves. Take you through the Ingram by any quiet mechanism. The bedsheet was red. The carpet was gray. The lamp was antique. The pain was so no. The bedsheet was red. The window was clear. The meadow was there. The eye was quit.
Lise Le Gall, bonjour. Nous t'avons écouté tout à l'heure sans te présenter. Réellement, tu es donc artiste et poétesse et tu vis à Nantes. Tu as publié Stray Dog en 2021 aux éditions Ma Bibliothèque et tu as récemment exposé ton travail à la galerie GB Agency donc en 2021. Lors de nos discussions autour de Verity Spot et de la scène anglaise, ton intérêt se porte principalement sur un poète qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, Sean Bonney, très proche de Verity et malheureusement récemment décédé, et que tu as découvert lors d'un long séjour à Sheffield en Angleterre. Peux-tu nous dire un petit peu ce qui t'a attiré dans son écriture ou comment tu as découvert ce poète?
Eh ben, en fait, je m'en souvenais plus, mais Verity Spot en avait parlé quand elle était venue aux Beaux-Arts à Lyon, où je l'avais rencontrée. Et bref, c'est un nom que j'ai revu plus tard dans mes carnets, mais que j'avais oublié. Et oui, en fait, Sean Bonney, en fait, moi j'ai découvert son travail quand j'étais à Londres, c'était juste avant le confinement. Et il y avait pas mal de lectures en son hommage à ce moment-là. Mmh. Et j'ai trouvé que c'était une poésie qui était très forte dans la façon dont elle assume et revendique un rapport aux politiques justement aussi très fort. Dans la manière aussi où la poésie ne va pas être séparée, par exemple, de quelque chose proche de la philosophie ou du journalisme ou genre de l'intensité sociale que ça peut provoquer. Et puis, ben, y a tout ce rapport aussi un peu à la poésie militante où on ne demande pas forcément à la poésie de faire en sorte de changer les choses. Mais c'est plus intéressant de voir ce que justement l'expérience poétique et sociale fait à la poésie et qu'est-ce que ça provoque comme nouvelle forme.
Et tu nous disais que récemment aussi tu avais participé à des moments de lecture où il y avait à la fois de la poésie mais aussi de l'écriture non poétique et de l'activisme et que toutes ces formes-là cohabitaient dans ces moments. Et du coup, je voulais te demander un peu ce que tu pensais, toi, dans le contexte français, de ces rapports entre poésie et politique qui se créent. Et par exemple, pour toi, quand tu es invité à ce type d'événement-là, est-ce que tu vas produire un type de texte en particulier, avec une forme d'adresse particulière, ou est-ce que n'importe quel poème que tu écris peut être lu à cette occasion ?
Non, je crois pas. Je crois que j'aime bien que ce soit les mêmes poèmes, qui soit adressé à des publics différents. Et parce que je suis assez curieuse de voir comment ça va être reçu et comment ça va définir autrement aussi, je pense, ce que je lis. Et après, le rapport plutôt poésie et politique, En France, je ne sais pas trop. Et en fait, en Angleterre aussi, je ne sais pas trop. Enfin, en fait, c'était plutôt des impressions. Quand j'avais assisté à certaines lectures de 87 Press, je trouvais que c'était quelque chose que je n'avais jamais entendu ou vécu en France. Et qui était d'une grande force. Enfin, il y avait beaucoup d'énergie aussi, qui était quelque chose de très assumé.
Il y a quelque chose chez Sean Boney qu'on retrouve aussi chez Verity et qu'on retrouve dans les extraits que vous avez lus l'une et l'autre. C'est justement cette question de l'adresse qui est assez particulière. Chez Sean Boney, il y a la question de la lettre qu'il a écrite dans plusieurs... En tout cas, dans un de ses recueils qui constituait quasiment uniquement de lettres. C'est aussi une chose que tu as fait dernièrement, mais dans un contexte un petit peu différent. C'est-à-dire, c'était une commande, si je me souviens bien. C'est quelque chose qui s'adressait plutôt au monde de l'art, parce que, comme tu le dis, tu viens aussi de là. Et ce qui fait que ça propose en fait une sorte aussi d'adresse au lecteur qui est un peu différente. Est-ce que c'est des choses qui, toi, t'ont fait bouger comme ça, ou c'est devenu naturellement, ou ça...
Dans l'adresse, en fait, j'aime bien aussi certains poèmes qui, bizarrement, qui ferment des portes à des gens à qui t'as pas trop envie de parler. enfin, on a déjà parlé ensemble de Mendelssohn, la
Anna
poétesse,
Mendelssohn,
oui, voilà, dont Sean Boney s'est aussi inspiré. Et donc, il y avait aussi cette phrase où elle dit « I don't speak to the police except never ». Et j'aime bien ça, cette idée de ne pas vouloir s'adresser à. Ouais. Mais c'est aussi dans une optique de défense ou presque même de protection.
Ouais, juste pour resituer un tout petit peu, c'est que Anna Mendelssohn, c'est une poétesse anglaise qui a commencé à écrire un peu tardivement, qui a d'abord fait partie des Angry Brigade, qui était un mouvement révolutionnaire et actif, on va le dire comme ça, dans les années 70, et qui a fait de la prison, et qui en sortant de prison a commencé à écrire, et qui est une poétesse très importante pour Sean Boney et Verity Spot. Effectivement, chez Anna Mendelssohn, ce qui est intéressant, c'est aussi les changements de registre qu'on retrouve dans ses recueils. En fait, il y a vraiment des d'une page à l'autre, on est dans des formes complètement différentes. Et chez Verity, je trouve qu'il y a aussi quelque chose comme ça.
Oui, moi je me disais, en vous entendant évoquer la Anna Mendelssohn, c'est vrai que la forme d'adresse qu'il y avait chez Anna Mendelssohn s'est repris chez Verity, mais du côté du sort, justement. Enfin, ce qui passait à l'époque dans une autre forme d'adresse, peut-être plus frontale ou plus directe, Verity, elle le reprend du côté du sort. Et je me rappelle, Élise, que tu en disais quelque chose de vraiment intéressant, que aussi le sort était peut-être pensé par rapport au moment de lecture, et que ça crée un rapport complètement différent aussi avec les personnes qui écoutent.
Oui, puis il y a un truc aussi qu'on ne maîtrise pas forcément dans la lecture. Ce qui me paraît intéressant aussi avec le travail de Verity, c'est tout le rapport au souffle, et du souffle poétique, enfin, qui serait un peu cette idée romantique, mais qui là prend un autre aspect grâce à un souffle plutôt politique, du coup. Parce que là, en fait, avec cette histoire de césure, c'est aussi comment réussir à couper le souffle à celui qui soit lit ou celui qui écoute. Là, par exemple, quand j'ai lu, à la fin, j'ai cru un peu que j'allais m'étouffer. C'est un peu quelque chose que je n'avais pas senti venir. Et du coup, c'est aussi parler, ça nous fait un peu repenser notre rapport aussi à la respiration, mais d'un point de vue politique, justement, où on essaye de... trouver un rythme qui serait le nôtre et pas juste le flux habituel en fait d'une parole normée lissée.
Ouais, dans les lectures, c'est très sensible dans les lectures de Verity. Verity a fait beaucoup de lectures qui sont disponibles en ligne. Vous pouvez les écouter. Souvent, ce rapport justement au allaitement presque et dans les textes qui ont été publiés chez Senaoi, qui sont les coronelles, donc des petites formes courtes publiées, enfin écrites pendant la pandémie en Angleterre, où il y a vraiment cette forme en fait d'allaitement qui revient quand Verity les lit les unes à la suite des autres.
Merci beaucoup, Élise. Donc on va maintenant vous écouter toutes les deux pour un moment de lecture bilingue. Donc vous allez l'une et l'autre lire le même passage, donc une fois en anglais et puis une fois en français.
A thread in the grass twitches from a distance into the woods, and the e-meter grins through the gauze. In the cruel and heartless or effortlessly beautiful meadow, a man is walking alone. In the meadow, a woman is walking along. They can see one another. How nice to be walking in the meadow, seeing a lovely man. How nice to be walking in the cruel, unusual, or completely lovely meadow, and there, a woman. Walking in a cruel meadow is like making love to a beautiful woman, he quips in the long flowers. What's wrong with that? He suddenly bellows. The cruel heart of woman hears this bellowing man and comes back to life, runs after him, clearing up the crisp packets and data. His spine tingles. There's a strange thread in the grass. She stares down at the eerie cord glistening like a lurid hinge plate. Beep, 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 etc. A crisp packet falls into the way and she goes back to the cleaning, attends to the meadow. Just then, a crow bellows for rain. They meet naturally and agree to have sex with one another. Oh, good. She lies down in the blades of his ire, does her best not to set him off. Europe, northern, white, Baltic, he snarls. Having sex with you is a bit like making love to a beautiful woman, connected to a damp feeling, the population. You know, before they had all this, shh. Just try to be happy. He pulls a piece of tape across his mouth and makes himself go to prison. And so it was that she wandered alone in the damaged meadow, mending the seams of reality gently and quietly, like any corrupted monad. Bollocks to you, she dares to think, and turns off the path into the woods. These were the woods of a terrified child, but in the summer it is only a quiet hazard. She trips along through the sticks and bracken. There is no bird song. It is extremely quiet. She runs back into the meadow. She speaks to him again. He is irate. Remember that waiter? Wasn't he funny? He is glaring like stone. That waiter was funny, wasn't he? She kicks the ground with her foot and notices that just below the earth there are thousands of wires and tubes. One of the tubes she sees has an enormous clot of blood in it. They are going to make us extinct. That way, they meet every year in a secret location. They all do. They are. It is unclear who is speaking. They scream about the sky. The wires are under the ground. I don't like parachutists. He was funny. He was funny. He was funny, wasn't it? He has to have been funny, or I can no longer speak. I will have to die. Is there anything else? No, not anymore. He was funny. I don't want to go alone into the woods.
Un filtre saute dans l'herbe, au loin dans les bois. Élie Metter sourit de toutes ses dents à travers la gaze. Dans la prairie cruelle et sans cœur où belle sans effort un homme se promène. Dans la prairie, une femme se promène. Ils peuvent se voir. Comme c'est bon de marcher dans la prairie et de voir un homme charmant. Comme c'est bon de marcher dans la prairie cruelle, inhabituelle ou entièrement charmante. Et là, une femme. Marcher dans une prairie cruelle, c'est comme faire l'amour à une belle femme, lance-t-il malicieusement dans les longues fleurs. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Mugit-il tout à coup. Le cœur cruel de femme entend cet homme mugissant et revient à la vie. Lui court après, faisant disparaître les paquets de chips et les datas. Sa colonne vertébrale frissonne. Il y a un fil bizarre dans l'herbe, elle fixe la corde étrange qui luit comme une charnière vive. Bip, 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 etc. Un paquet de chips tombe sur le chemin. et elle nettoie encore, se rend à la prairie. Juste à ce moment, un corbeau mugit pour la pluie. Ils se rencontrent, naturellement, et se mettent d'accord pour faire l'amour ensemble. Oh, c'est bon. Elle s'allonge dans les brins. De son ire, fait de son mieux pour ne pas le provoquer. Europe, du Nord, Blanche, Baltique, il grogne. Faire l'amour avec toi, c'est un peu comme faire l'amour avec une belle femme. Connecté à une sensation humide. La population. Tu sais, avant qu'ils aient tous... chut. Sois heureux, c'est tout. Il se presse un morceau de scotch sur la bouche et se rend lui-même en prison. Et c'est ainsi qu'elle déambulait seule dans la prairie, abîmée, raccommodant les coutures de la réalité, doucement et silencieusement, comme n'importe quelle monade corrompue. « Merde toi-même », ose-t-elle penser, et sort du chemin pour aller dans les bois. C'était les bois d'une enfant terrifiée. Mais en été, ce n'est qu'un danger silencieux. Elle trébuche à travers les bouts de bois et les fougères. Il n'y a aucun chant d'oiseau. C'est extrêmement silencieux. Elle retourne en courant dans la prairie. Elle lui parle de nouveau. Il est furieux. Tu te souviens de ce serveur? Qu'il était drôle. Il brille comme une pierre. Le serveur était drôle, n'est-ce pas? Elle donne un coup de pied dans le sol et remarque que juste en dessous de la terre, il y a des milliers de câbles et de tubes. Dans un des tubes, elle voit un énorme chaos de sang. Ils vont nous faire disparaître. Se serrent. Ils se rencontrent chaque année dans un lieu tenu secret. Ils le font tous. Ils sont. On ne sait pas vraiment qui parle. Ils crient à propos du ciel. Les câbles sont sous le sol. Je n'aime pas les parachutistes. Il était drôle, très drôle. Il était drôle, n'est-ce pas? Il était forcément drôle, ou je ne dirais plus rien. Je devrais mourir. Y a-t-il autre chose? Non, plus maintenant. C'est un drôle de cerf. Je ne veux pas aller seule dans les bois.
Élise et Jacqueline, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce lancement radiophonique. On encourage vraiment tous les auditeurs et toutes les auditrices à lire vos textes. Et la revue Senaoi est disponible dans toutes les librairies qui sont des librairies et aussi sur abonnement. Et c'est très agréable de le recevoir. Et quant à Désolation, il est disponible aussi auprès de vos libraires, mais aussi en ligne sur le site de Même pas l'hiver, donc www.memepalhiver.com.
Vous pourrez aussi découvrir l'essai L'architecte et la femme au foyer de l'artiste américaine Frances Stark, ou celui de l'auteur et critique américain Lytle Shaw, un énoncé surpris au hasard, qui fait revenir sur la poésie par le biais de Ginsberg. D'autres publications sont à venir. Vous pouvez nous suivre sur Instagram ou en vous inscrivant à la newsletter sur le site Même pas l'hiver. Merci à vous.